Dans mes lectures préparatoires pour le message de ce matin, je suis tombé sur un article de l'Express de 1991. Ça date un peu. Intitulé, donc j'avais mis cet article de côté, intitulé « Dieu et les jeunes ». En voici un court extrait. On va attendre que ça s'affiche, voilà. Les jeunes se fabriquent une religion à la carte. Ils bricolent, comme disent les sociologues qui les étudient. Ils se servent au grand bazar des croyances en fonction de leurs besoins individuels. La religion est une ressource libre. On prend, on en laisse, on en prend, on en laisse. On prend le paradis, pas l'enfer. On veut bien la prière, pas la messe. On croit en Jésus, pas en Dieu, ou l'inverse. On peut faire tourner les tables et aller à l'église, croire à la réincarnation, à la télépathie, aux soucoupes volantes et à l'Esprit Saint, pourquoi pas. À chacun son cocktail, on s'arrange avec Dieu. Fin de citation. Cette réalité d'une religion à la carte existe toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ça existe même dans les milieux évangéliques. Et ce matin, nous allons voir dans notre série sur le prophète Élie que ce qui est décrit dans cet article de l'Express est en réalité dans son principe ce qui se passait déjà en Israël à cette époque. En effet, sous le règne d'Akab, l'apostasie n'est pas totale, l'apostasie du peuple n'est pas totale. En fait, c'est une forme de polythéisme, c'est du syncrétisme. Israël avait gardé quelque chose du culte à l'Éternel, tout en y associant le culte de Baal et le culte d'Achéra. Et nous allons voir ce matin comment le prophète va adresser cette situation. Et je vous invite à une première lecture dans le premier livre des rois. Nous commençons au début du chapitre 18. 1 roi 18, je lis les versets 1 à 19. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. « Va te présenter devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. » Élie alla se présenter devant Akab. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne, et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Alors Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton serviteur, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel. » ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Nous arrêtons là la lecture pour l'instant. Le temps des retrouvailles entre Élie et Akab a sonné. Après plus de 3 ans de sécheresse intense, c'est ce que nous lisons au verset 3, sécheresse intense et famine qui va avec, Dieu ordonne à Élie d'aller se présenter devant Akab. C'est notre premier point. Le séjour à Sarepta est donc terminé. Il est temps pour Élie de revenir en Israël et de confronter à nouveau le roi Akab. C'était une nécessité qu'Élie revienne devant Akab. Pourquoi ? Parce qu'il avait dit à Élie, lors de leur première rencontre, que la pluie ne reviendrait qu'à sa parole. Il ne fallait donc pas qu'Akab ou le peuple pense que le retour de la pluie, qui aura bientôt lieu, était dû au hasard ou pire, dû aux prières adressées à Baal. Élie obéit à Dieu et se met en route. Et nous notons ici qu'il lui a fallu certainement beaucoup de courage pour aller se présenter devant le roi. Il lui a fallu beaucoup de courage la première fois et il lui en a fallu certainement beaucoup plus cette deuxième fois. En effet, depuis leur première rencontre, il y a plus de 3 ans, le pays, le roi, le peuple souffrent. Souffre à cause de la sécheresse, souffre à cause de la parole qu'il a dite. Depuis, Jézabel s'est acharnée sur les prophètes de l'Éternel, qu'elle a fait massacrer, comme nous l'avons lu. Sans doute l'a-t-elle fait pour plaire au dieu Baal. Peut-être l'a-t-elle fait dans l'espoir que la pluie revienne. Et puis, depuis, la tête d'Élie est mise à prix. Et Élie est recherché dans tout le pays et même en dehors des frontières du pays. Alors que Dieu dit à Élie de retourner voir Akab, ce dernier fait appeler un certain Abdias. Abdias qui est le préposé à la maison du roi, son intendant si vous voulez. Notons juste que cet Abdias-là, ce n'est pas le même qui a écrit le livre d'Abdias qui porte donc son nom. Pour ce qui est de l'Abdias de notre passage, à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose à part ce qui est marqué dans ce texte. Nous savons qu'il était au service d'Akab et nous savons qu'il craignait beaucoup l'Éternel. C'est ce que nous lisons au verset 3. Et une crainte de l'Éternel qui s'est traduite en particulier par sa protection de 100 prophètes qu'il a cachés dans les cavernes quand Jézabel faisait massacrer les prophètes de l'Éternel. Donc Akab fait appeler Abdias et lui demande au verset 5 de parcourir le pays afin de trouver de l'herbe, qui s'est fait rare forcément après 3 ans de sécheresse, de l'herbe pour ses chevaux et ses mulets afin de ne pas avoir à les abattre. Et nous avons un texte qui n'est pas un texte biblique, c'est un texte, ce sont les annales du roi assyrien Salmanazar III, qui nous dit que Akab disposait de 2000 chars de guerre tirés par 4000 chevaux. Ça fait beaucoup de chevaux à nourrir. Ça fait beaucoup d'herbe à trouver. Et on comprend un petit peu mieux ce qui se passe ici. Et donc, nous comprenons aussi que c'est la puissance militaire d'Akab qui est en jeu à ce moment-là, qui est maintenant clairement en péril. Pas de chevaux, pas de chars de guerre opérationnels, pas de chars, pas de puissance militaire pour arrêter une éventuelle invasion qui, elle, se ferait avec des chars et des chevaux. Il y a donc ici un véritable enjeu de stratégie de sécurité nationale. Et donc, il n'est pas surprenant, au verset 6, de lire que le roi lui-même s'engage dans cette recherche d'herbe pour ses chevaux. Et c'est donc dans ce contexte qu'Élie va rencontrer Abdias, à qui il demande au verset 8 d'aller dire à Akab qu'il est là, qu'il est de retour. Et ça s'ensuit un long dialogue entre Abdias et Élie qui va du verset 9 au verset 14 et qui traduit la crainte d'Abdias, qu'Élie ne disparaisse à nouveau. Et lui se retrouve en difficulté devant le roi qui le ferait mettre à mort. C'est répété au verset 9, au verset 12 et au verset 14. Mais devant la crainte d'Abdias, qui n'est pas sans fondement, Élie fait une promesse, la promesse qu'il ira rencontrer Akab le jour même. Et c'est ainsi qu'Élie rencontre à nouveau Akab. Alors comment ça s'est exactement combiné, puisque Akab était parti par un autre chemin, je ne sais pas, mais le texte nous dit qu'ils se sont rencontrés. Et quand Akab rencontre Élie, d'emblée, il l'accuse. Il l'accuse d'être celui qui jette le trouble sur le pays. En hébreu, le verbe « jeter le trouble » du texte est de la même famille qu'un nom, que le nom que l'on peut traduire par « serpent »,« vipère »,« aspic ». Et donc, on pourrait, en forçant un petit peu, traduire ici les paroles d'Akab « Est-ce toi la vipère d'Israël ? » Est-ce toi la vipère d'Israël ? Akab confronte Élie. Mais surtout, Akab n'est pas revenu à l'Éternel. La sécheresse n'a pas produit les fruits de repentance qu'elle avait produits en son temps dans une situation analogue sur le roi David. Souvenez-vous, 2 Samuel 21, verset 1, « Or, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel. » Oui, David rechercha la présence de l'Éternel, mais pas Akab. Que répond Élie à l'accusation du roi ? Verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Élie commence par remettre les pendules à l'heure. Si Israël est troublé, c'est à cause de l'abandon des commandements de l'Éternel par le roi et par sa maison. C'est à cause du ralliement du roi au culte des Baals. Et après avoir dit cela, il ajoute au verset 19 la demande que le roi rassemble au mont Carmel tout Israël, ainsi que les 850 prophètes de Baal et d'Achéra, qui, précise le texte, mangent tous à la table de Jézabel. C'était une grande table. La convocation est lancée. Mais pourquoi donc Akab ferait-il ce qu'Élie lui demande? Je pose la question, mais le texte ne donne pas de réponse. Donc on suppose. Mais on peut supposer que Akab a vu là une occasion, peut-être l'occasion, de se débarrasser une fois pour toutes d'Élie en redorant son blason devant le peuple et devant les prophètes de Baal au Mont Carmel. Au Mont Carmel, c'est justement notre deuxième point. Et je vous invite à lire la suite du récit à partir du verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au Mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: « Je suis resté, moi seul, prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent, et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit: « D'accord. » Élie dit au prophète de Baal: « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: « Criez à voix haute, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose d'autre. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus, des fils de Jacob à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes: « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit: « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit: « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit: « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent: « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Voilà, c'était une longue lecture, mais il fallait que l'on puisse prendre toute l'histoire dans son ensemble. Nous sommes maintenant sur le mont Carmel. Ce mont Carmel se trouve au nord d'Israël, au nord du royaume du Nord, tout au bord de la mer Méditerranée. On est finalement assez près de Sarepta. Sont présents Élie, Akab, les prophètes de Baal et le peuple. Le texte dit « tout le peuple, tout Israël ». C'est une figure de style, très certainement. Nous avons une représentation du peuple. Pour ce qui est des prophètes de Baal, nous avons lu au verset 19 qu'ils étaient au nombre de 450 et qu'il y avait 400 prophètes d'Achéra. Ça nous donne le chiffre de 850 prophètes, ce qui est quand même beaucoup. C'est vrai que dans la suite, il n'est question que, dans cette deuxième partie du récit, il n'est question que des 450 prophètes de Baal au verset 22. Alors, est-ce que les 400 prophètes d'Achéra étaient aussi présents sur le mont Carmel? On peut comprendre oui, on peut comprendre non. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même beaucoup de monde. Et alors que tout le monde est rassemblé, Élie prend la parole pour s'adresser au peuple. Et que leur dit-il? Verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui, si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » L'interpellation du prophète est forte, nous allons y revenir. Mais surtout, elle nous fait comprendre quelque chose de la condition spirituelle du peuple à ce moment-là. On aurait pu croire que le peuple avait totalement abandonné l'Éternel, mais ce n'est pas le cas. En réalité, le peuple ne cesse de faire des allers-retours entre l'Éternel et les Baals et Achéra de l'autre côté. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Dit Élie. Que se passe-t-il ici ? Il se passe que le peuple n'arrive pas à se décider. Il n'arrive pas à choisir entre l'Éternel et les idoles. Peut-être même qu'il ne veut pas se décider pour prendre le meilleur des deux. La situation spirituelle du peuple s'apparente donc à du polythéisme et à du syncrétisme. Polythéisme parce qu'il adore plusieurs dieux, parce qu'il admet l'existence de plusieurs dieux. Syncrétisme parce qu'il associe, parce qu'il mélange, parce qu'il combine différents systèmes religieux et différentes doctrines. Le peuple d'Israël a donc continué à adorer d'une certaine manière Dieu, en partie, tout en adorant au même temps les Baals et Achéra. Il oscille de l'un à l'autre, au gré des envies, au gré des besoins. Cette indécision du peuple est très pragmatique. Elle apporte sans doute un certain confort. On garde ce qui arrange, on rejette ce qui dérange. C'est une religiosité, une spiritualité à la carte, où chacun fait son propre cocktail. Mais voilà, ce syncrétisme n'est pas dans la volonté de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi Élie leur dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» La situation n'a que trop duré. Il va falloir choisir, dit Élie. Si c'est l'Éternel, ralliez-vous à l'Éternel. Si c'est Baal, ralliez-vous à Baal. Élie met le peuple devant un choix. devant ses responsabilités. Il va falloir choisir son camp et arrêter de clocher des deux côtés. Notons que le peuple répond à cette interpellation par le silence. Et pour les aider à choisir, Élie va lancer un défi au prophète de Baal. Un défi qui permettra de savoir avec certitude qui est le vrai Dieu. Un défi qui permettra au peuple de choisir en connaissance de cause. En quoi consiste le défi ? Il consiste en un sacrifice que la divinité va devoir embraser en faisant descendre le feu du ciel et ainsi montrer sans ambiguïté aucune quel est le vrai Dieu. Verset 24, « Puis invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Le défi est clair, net, précis. L'issue révélera clairement qui est le vrai Dieu. Et après le silence, le peuple répond « D'accord ». Pour que la victoire de l'Éternel soit éclatante, il faut que ce soit les prophètes de Baal qui commencent. Et c'est ce que Élie les invite à faire. Et après avoir préparé le taureau, après l'avoir posé sur le bois de leur autel, ils se mettent à invoquer leur divinité. « Baal, réponds-nous » disent-ils. « Nous sommes le matin. » Et leurs invocations, leur danse, leur saut, verset 26, durent jusqu'à midi. Mais Baal reste silencieux. Notons que ces prophètes n'avaient certainement jamais fait quelque chose de pareil. Mais ils ne pouvaient pas perdre la face. Il leur fallait aller jusqu'au bout du défi. À midi, lisons-nous, verset 27, Élie se met à se moquer d'eux. Il sort de son silence pour ironiser au sujet de ce qui se passe. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. » Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Quelle ironie! Et une note de la Bible d'étude du sommaire précise ceci. L'ironie d'Élie n'est pas sans rapport avec les représentations très humaines que les païens se faisaient de leur Dieu. Le dieu Baal, lié au cycle de la végétation, était conçu comme un dieu mourant et ressuscitant annuellement. Les derniers mots d'Élie, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera, y font peut-être allusion. En tout cas, les moqueries d'Élie ont pour objectif de piquer à vif ces prophètes. En tout cas, ils sont piqués dans leur orgueil. Tant et si bien qu'ils vont poursuivre leurs incantations de plus belle tout au long de l'après-midi, avec une nouvelle intensité. Puisqu'ils se mettent à se faire des incisions sur tout le corps avec des lances et avec des épées pour faire couler le sang. On peut essayer d'imaginer ce que ça a donné, et je pense que ce que l'on peut imaginer est bien loin de la réalité chaotique et sanglante qui devait avoir lieu devant l'autel de Baal cet après-midi-là. Spectacle désolant et pathétique qui va durer une bonne partie de l'après-midi jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, c'est-à-dire vers 15h-16h. Quel est le bilan de cette journée d'incantation et de mutilation pour que Baal agisse ? Verset 29, « Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. » Exténués, ensanglantés, les prophètes de Baal ne devaient pas en mener très large à ce moment-là. Mais c'est maintenant au tour d'Élie. Élie qui, après avoir demandé au peuple de se rapprocher, commence par rebâtir l'autel à l'Éternel qui se trouvait là, qui avait été détruit et qui avait sans doute servi à un moment donné. Et pour rebâtir l'autel de l'Éternel, il utilise 12 pierres, 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Rappelons ici que nous sommes après le schisme et que le peuple de Dieu est maintenant divisé en 2 royaumes. Un royaume au sud, je schématise, avec 2 tribus, et un royaume au nord avec 10 tribus. Et donc il est très significatif que malgré cette réalité, Élie utilise quand même 12 pierres. Il aurait pu en utiliser 10 s'il est dans le royaume du nord, mais il en utilise 12 sans doute pour dire que le peuple de Dieu est toujours un malgré ce que les hommes peuvent faire. Après avoir bâti cet autel, Élie se met à creuser un fossé tout autour. Pourquoi faire ? Nous l'avons lu, pour qu'il puisse accueillir l'eau qu'il va ensuite verser sur ce sacrifice. Élie a-t-il perdu la tête ? C'est sans doute ce que ceux qui étaient présents ont dû penser en voyant ce que faisait le prophète. Certains commentateurs, devant les détails qui sont donnés dans le texte, émettent des doutes sur la vraisemblance, la véracité des faits, en soulignant que ça faisait plus de 3 ans qu'il ne pleuvait pas et que donc de l'eau, il ne devait pas y en avoir beaucoup et peut-être pas à proximité. Et que même si c'était le cas, même s'il y avait une source quelque part, l'eau était si précieuse qu'Élie n'aurait jamais agi de la sorte. C'est une hypothèse, bien évidemment. Et on peut répondre à cela qu'il est fort probable qu'il y ait eu quelque part sur ce mont Carmel une source dans un coin abrité. C'est tout à fait vraisemblable. Il fallait bien qu'il y ait de l'eau quelque part. Et que même si ce n'était pas le cas, la mer Méditerranée est là, au pied du mont Carmel, donc il était de toute façon possible d'avoir de l'eau sans avoir à aller très très loin. Alors Élie a-t-il perdu la tête ? Non, bien évidemment. Ce qu'il veut, c'est marquer les esprits. Ce qu'il veut, c'est montrer avec beaucoup d'éclat la puissance de l'Éternel. Et une fois qu'il a versé l'eau à 3 reprises et que tout est inondé, Élie adresse une prière à l'Éternel. Versets 36 et 37. Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. » Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Quel contraste avec ce que les prophètes de Baal ont dit et ont fait pendant toute la journée. Quelle sobriété ! Pas d'incantations interminables, pas de gesticulations, pas d'incisions, pas de litanie, une simple prière, quelques mots. Et cela nous rappelle ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ce qui est déterminant dans l'exaucement de nos prières, ce n'est pas la somme de nos paroles, ce n'est pas ce que nous faisons, ni la manière dont nous le faisons. Ce qui est déterminant dans l'exaucement de nos prières, c'est qu'elles soient dans la volonté de Dieu. Ce qu'Élie dit au verset 37 nous fait bien comprendre la mission dans laquelle il est engagé. Quelle est-elle ? Que le peuple revienne à Dieu, qu'ils reconnaissent que c'est l'Éternel qui seul est Dieu, que leur cœur lui soit ramené. Et la réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Le feu tombe du ciel, consume l'offrande, le bois, les pierres et la terre, et absorbe l'eau contenue dans le fossé. Ça a dû être vraiment très impressionnant. Tellement impressionnant que le peuple tombe la face contre terre. C'est un geste de crainte, un geste d'adoration. Et le peuple se met à crier au verset 39, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Quel contraste après leur silence du verset 21. La fin du récit est peut-être dérangeante. Je parle ici de la mort, de la mise à mort des prophètes de Baal au verset 40, par Élie qui est aidé par tout le peuple. Ce qu'on peut dire, c'est que comme pour les guerres de l'Ancien Testament, il faut voir ce massacre des prophètes de Baal comme le jugement de Dieu, un jugement partiel de Dieu qui annonce le grand jugement à venir. Et on se souvient que la loi ordonnait de mettre à mort les faux prophètes, et il s'avère que, de manière éclatante, ils le sont. Et puis, deuxièmement, on peut dire qu'il faut voir ce massacre comme un acte visant à éradiquer le mal du milieu du peuple, à l'instar de ce que le chirurgien fait avec la tumeur maligne qu'il va chercher à enlever entièrement. Il est temps de terminer et de conclure, et de terminer avec quelques applications de ce que nous venons de considérer. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est facile de clocher des deux côtés. Il est facile de clocher des deux côtés. Le compromis spirituel est une chose facile pour nous qui avons une nature pécheresse. Il est facile d'avoir un cœur partagé. Par facilité, par confort, par paresse, par faiblesse, par choix, par peur des autres, par égoïsme, et on peut rajouter d'autres raisons à cela. Oui, il est facile de ressembler à Israël. Il est facile de se satisfaire dans sa propre vie d'une sorte de syncrétisme que nous aurons fabriqué. Et c'est ainsi que nous pouvons servir Dieu, nous l'aimons, et en même temps, nous tolérons certaines choses dans notre vie qui ne sont pas à sa gloire et qui parfois prennent sa place. Nous ressemblons alors à la description faite par l'article de l'Express que nous avons lu au commencement. Nous faisons notre propre tambouille spirituelle. Nous ne faisons pas les choix que nous devrions faire. Nous tolérons dans notre vie ce que Dieu dénonce. Nous clochons des deux côtés. Et force est de constater que c'est tout sauf difficile de clocher des deux côtés. C'est tout sauf difficile, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Et cela nous amène à une deuxième application. Dieu désire un cœur sans partage. Dieu désire que notre vie soit sans partage, notre cœur soit sans partage, que notre cœur lui soit entièrement consacré. Nous lisons par exemple dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, versets 4 et 5, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et nous savons que Jésus reprendra cette parole dans l'Évangile de Matthieu. Oui, la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que leur vie lui soit totalement consacrée, c'est que leur vie soit sans compromis, c'est qu'ils rejettent de leur vie tout ce qui veut prendre la place de Dieu. Ce que Dieu désire de nous, c'est une loyauté sans faille. Une loyauté sans faille qui fera dire à Jésus cette parole bien connue, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Et cela nous conduit a une troisième application. Une loyauté sans faille ne se fait pas une fois pour toutes. Quand nous décidons de suivre le Christ, au moment de la conversion, nous faisons un choix radical. Nous devrions faire un choix radical. Mais ce choix initial, fondamental, suffisant pour le salut, n'est pas suffisant pour la sanctification. Et c'est pourquoi, tout au long de la vie chrétienne, tout au long de la marche par la foi, nous devons sans cesse considérer nos choix, considérer nos priorités, considérer nos allégeances, considérer nos loyautés. Pourquoi ? Nous l'avons dit en premier. Parce qu'il est facile, il nous est facile de clocher des deux côtés. Il nous est facile de clocher des deux côtés parce que nous avons en nous deux natures qui se font la guerre. D'un côté, l'Esprit de Dieu qui nous tire vers les choses de Dieu. Et de l'autre, notre chair, notre nature pécheresse qui nous tire sans cesse vers nous-mêmes et qui nous tire loin de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons absolument prendre conscience que notre loyauté à Dieu, au Christ, demande un engagement, demande des efforts de chaque instant, de chaque jour. Non, la loyauté à Dieu n'est pas acquise une fois pour toutes pour ce qui est de la sanctification, de notre lutte contre le péché. Et je termine avec une quatrième et dernière application. Nous pouvons toujours nous repentir. Nous pouvons toujours nous repentir parce que la volonté de Dieu n'est jamais de nous enfoncer, jamais, mais toujours de nous aider à progresser. Il se peut que ce matin, vous ayez pris conscience de certaines choses, que certaines choses doivent changer dans votre vie. Enfin changer. J'aimerais vous dire que Dieu veut vous aider, comme il veut m'aider moi. Il veut vous tendre sa main. Le premier pas a déjà été fait à la croix. Le second nous appartient, c'est celui de la repentance. Celui de la repentance, bien évidemment, initiale à la conversion et puis tout au long du chemin, tout au long de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi si nous confessons nos péchés, comme le dit Jean dans sa première épître, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Élie disait au peuple d'Israël, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Jusque à quand ?» Et cette question nous est posée à chacun de nous ce matin. Jusque à quand clocherai-je des deux côtés ? Y a-t-il du compromis dans ma vie ? Est-ce que c'est la tiédeur qui caractérise ma vie chrétienne ? Est-ce que je suis vraiment sérieux dans mon engagement, mon attachement au Seigneur ? Jusque à quand clocherai-je des deux côtés ? Déjà en son temps, le prophète Ésaïe adressait cette réalité, c'est une réalité de tous les temps. Et voilà ce qu'il disait en apportant la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Il est tellement facile de clocher des deux côtés. Une dernière chose. Nous voyons dans le texte qu'Élie et le peuple sont allés jusqu'au bout en éradiquant le mal qui était au milieu d'eux. Alors, c'était dans un contexte particulier. Il faut se garder de faire des transpositions littérales. Mais en tout cas, nous constatons cela. Ce n'est pas contenté de montrer au prophète de Baal qui était le vrai Dieu, ils sont allés jusqu'au bout. Et le danger pour vous et pour moi, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. C'est d'être touché, peut-être l'êtes-vous ce matin, d'être touché par ce que Dieu dit, d'être convaincu qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie et de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche, de ne pas aller jusqu'à la repentance, de ne pas aller jusqu'à la décision de changer, de ne pas aller jusqu'à l'action qui devra accompagner cette décision, de ne pas persévérer jour après jour pour que cette décision et cette action dure dans ma vie. Chers frères et sœurs, chers amis, si le Seigneur a touché votre cœur ce matin, ne l'endurcissez pas. Écoutez sa voix et revenez à lui. Et c'est vraiment la prière que je formule pour chacun de nous et pour moi aussi. Que le Seigneur, par sa grâce, permette que l'instant qui passe serve à nous rapprocher de lui. Amen.